Merci. Bonsoir. Alors, j'ai intitulé mon point de vue l'exil nu. L'expérience de l'exil dévoile la fragilité extrême de la condition humaine. Très tôt, écrit François Cheng, j'ai pris conscience que c'était la proximité de la mort qui nous poussait dans cette ardente urgence de vivre, et que surtout la mort était au-dedans de nous, comme un aimant qui nous tirait vers une forme de réalisation. Fin de citation. Giorgio Agamben rappelle la différence que les Grecs faisaient entre Zoé et Bios. Bien que ces deux mots aient une étymologie commune, ils sont sémantiquement et morphologiquement distincts. Zoé est commun à tous les êtres vivants. C'est la vie nue, reproduite dans un contexte non organisé politiquement. Tandis que Bios est un genre ou un mode de vie commun à un groupe. C'est la vie humaine dans la cité. La biopolitique de Foucault ne tient pas compte de cette distinction. Freud, en revanche, a isolé un type de détresse qui est dès l'origine propre à notre espèce. Il faut s'y calmer. Détresse du sujet de vivre au-dessus de ses moyens. Il existe parmi toutes les formes d'exil une qui réactive cette première expérience de séparation. On l'appellera l'exil nu. Expérience qui se trouve entre les deux morts, celle du corps et l'autre. À partir de 1977, Foucault décrit dans ses cours au Collège de France les passages d'un état territorial à l'état de la population et notamment l'importance vertigineuse qu'on donne à la vie biologique, comme un problème propre au pouvoir. C'est à ce moment-là qu'une série de techniques de gouvernement des hommes va multiplier les possibilités de protéger la vie. Les sciences dites sociales et humaines verront les jours, les corps deviennent dociles. La vie nue dans la société doit se transformer dans un autre type de vie, un bien-vivre selon la définition d'Aristote. Il y a un passage donc nécessaire d'une vie nue qui appelle à être transformée ensuite dans une vie politique. Le principe de cette transformation étant l'exclusion inclusive, la vie nue est toujours exclue de la cité. En effet, il existe une vie qui est tuable et séparable du pouvoir et la fonction essentielle de la société. Les questions qui concernent l'exil aujourd'hui se situent, me semble-t-il, à cet endroit. Les tensions entre Bios et Zoé sont irréductibles. C'est la même frontière qu'on retrouve entre les sujets et l'objet du fantasme. On retrouve entre les pouvoirs démocratiques modernes qui d'un côté considèrent l'homme en tant qu'être vivant et de l'autre côté comme un simple objet du pouvoir. Une revendication de plus en plus grande de l'expression de la vie nue dans les états démocratiques met en tension les contrôles de la vie et l'expression d'une vie hors du contrôle des états. La vie nue comme critère de certains états reste cruellement d'actualité. Robert Antelme avait tiré l'enseignement de son expérience du camp comme justement la remise en cause de sa qualité d'homme. Je cite, « La mise en question de la qualité d'homme provoque une revendication presque biologique d'appartenance à l'espèce humaine. » Fin de citation. Une sorte de solidarité logique entre l'exclusion et l'inclusion se joue dans ces seuils où les sujets se voient disparaître de la scène sociale. Lacan, à partir de la prologue du temps logique, à la sortie de la guerre, pose les bases d'une logique collective, dans laquelle une urgence d'appartenance est nécessaire au moment de la conclusion par peur d'être exclu de l'espèce humaine. je cite Lacan dans les temps logiques. Ce n'est donc pas en raison de quelques contingences dramatiques, gravité de l'enjeu ou émulation du jeu, que le temps presse. C'est sous l'urgence du mouvement logique que le sujet précipite à la fois son jugement et son départ. Le sens étymologique du verbe « la tête en avant » donnant la modulation ou la tension du temps, se renverse en la tendance à l'acte qui manifeste aux autres que le sujet a conclu. Je m'affirme d'être un homme, de peur d'être convaincu par les hommes de ne pas être un homme. Mouvement qui donne la forme logique de toute assimilation humaine, en tant que précisément elle se pose comme assimilatrice d'une barbarie et qui pourtant préserve la détermination essentielle du jeu. » Fin de citation. Peur d'être convaincu de n'être pas un homme. Ce que j'appelle l'exil nu se situe dans cette expérience logique du temps. C'est une sorte d'urgence subjective qui ne dépend pas seulement des déplacements géographiques ou des traversées des frontières, mais d'une expérience propre au temps qui passe ou qui ne passe pas. L'exil nu est propre à un temps qui presse. L'expérience de l'exil, dans ce sens, est hors du contexte politique. Souvent, le sujet n'a que sa parole, le seul moyen pour se défendre. La parole d'un exil nu est toujours une parole qui n'est pas commune, partagée. Le discours analytique est le seul, il me semble, qui n'a pas des paroles qui les précèdent. Lacan l'a fait marteler, l'essence de la théorie analytique est un discours sans parole. Il est le seul à pouvoir accueillir la parole du sujet sans aucun enjeu politique. Les naufragés des autres... La mondialisation humaine impose une nouvelle condition cosmopolite. L'exilé est devenu invisible et, pour être plus exact, les politiques européennes tendent à rendre invisible. On est progressivement passé de la noblesse spirituelle de l'exilé à la détresse institutionnelle du réfugié. La figure de l'exilé noble, intellectuelle et généreuse, posant un regard humaniste sur le monde, a abruptement laissé la place à une autre forme d'exilé, perçue comme une menace, comme un déchet. Les exilés n'ont plus des lieux d'arrivée, ce n'est que le lieu du camp, de la mise à l'écart, du mouvement entravé. Une nouvelle forme d'exil est née, l'exil nu. Comment sommes-nous passés de la noblesse spirituelle de l'exilé à la détresse institutionnelle du réfugié? L'extraterritorialité est le lieu exact de l'étranger. S'il est présent physiquement, il est administrativement maintenu hors du territoire. Tout ce qui l'entoure devient comme une aura extraterritoriale. Donc, aussi hors du droit de ces territoires-là. Des murs de séparation représentent la véritable nouveauté logistique et politique depuis la fin de la guerre froide. La vie humaine est devenue résiduelle, sans territoire propre. Tous ces changements donnent une nouvelle dimension à ces lieux d'où je parle. L'exil nu rejoint la vie nue, rendant compte de l'importance éthique d'une autre époque de la psychanalyse. C'est un métier qui rend compte au sujet de l'impossibilité, je cite Lacan, de vivre afin de rendre la vie tant soit peu possible. Le discours analytique part d'un impossible pour tenter de les rendre possibles. C'est le point pivot du désir de l'analyste. Les premiers repères nous viennent de Freud et la distinction qu'il fait entre la mort du corps et la mort anticipée. Freud insiste sur le fait que la mort propre n'est pas représentable, mais qu'elle peut être anticipée. La manière dont nous anticipons notre mort détermine la manière dont nous sommes prêts à risquer notre vie. Notre capacité d'anticiper notre mort n'est pas pensable en dehors du langage. Dans cette opération nommée séparation par Lacan, nous voyons qu'existe un lien entre des sexes et la mort, à travers la question de la perte, étroitement imbriquée. Les sujets cherchent à combler les manques de l'autre. La mort peut être amenée comme sacrifice et signe d'amour et prendre valeur sexuelle. La mort est devenue un signifiant qui fait son chemin dans l'inconscient. Elle s'est traduite, me semble-t-il, en errance quand elle prend la forme de l'indifférence de l'autre, un signe d'amour qui pousse au sacrifice, ou encore une manifestation de haine qui pousse au suicide. Pour conclure, rappelons que les symptômes comme événements du corps se déduisant de l'expérience de la psychanalyse est une forme de satisfaction indissociable de la vie, alors que nous devons bien admettre qu'il y a dans tout symptôme quelque chose du corps vivant. Il est alors évident qu'il n'y a pas de symptômes sans jouissance et pas de jouissance sans corps vivant. C'est ce que Lacan précise dans l'éthique de la psychanalyse. Il précise comment un corps vivant, lorsqu'il relève de l'espèce humaine, peut accéder à son propre rapport à la mort. Cette restriction est essentielle et il s'agit de notre rapport à la mort en tant qu'être parlant. Quelques préalables sont nécessaires pour jouir, dit Lacan. Il faut que la vie se présente sous la forme d'un corps vivant. Il faut distinguer les corps vivants du corps imaginaire et du corps symbolique. Les corps vivants n'est pas les corps imaginaires, celui de l'état du miroir unifié ou celui du partenaire que nous découpons en fragments pour mieux l'approcher. Les corps vivants n'est pas non plus les corps symboliques dont les signifiants ne correspondent pas forcément avec les réels de l'anatomie, étant donné que les parties peuvent être nommées. Les corps vivants de l'être parlant et les corps affectés des jouissances, dit Lacan. Tout corps vivant, nous pouvons conclure, s'est joui de lui-même. C'est un exil nu par rapport aux autres corps. Les corps vivants de l'être parlant n'est donc pas les corps paisibles du principe du paisible freudien. C'est un corps affecté par les langages. Il rencontre une jouissance liée à l'usage de la langue. J'ai fini aussi avec une anecdote, cette fois-ci racontée par François Cheng, qui en 1977, il s'avait consacré avec Lacan une après-midi de travail. Et donc il écrit « À l'heure du soir, sur une question posée par Lacan, je me suis mis, encouragé que j'étais par son silence attentif, à raconter ma vie, mes expériences de la beauté et de l'enfer de l'exil et de la double langue. Je revois encore son visage, soudain éclairé, d'un sourire plein de malice et de bonté, lorsqu'il m'a dit « Voyez-vous, notre métier est de démontrer l'impossibilité de vivre, afin de rendre la vie tant soit peu possible. Vous avez vécu l'extrême béance, pourquoi ne pas élargir un corps au point de vous identifier à elle? Vous qui avez la sagesse de comprendre qu'elle est vide et souffle et qu'elle est souffle et métamorphose, vous saurez de cesse que vous n'ayez donné vivre cours au souffle qui vous reste. Une écriture, pourquoi pas crever. » Sur ces paroles, nous nous sommes quittés. Ces jours-là, Lacan m'a rendu ma liberté, il m'a rendu libre. Je rappelle que la jeunesse de François Cheng avait été placée sous les signes de la guerre, la misère, les combats, l'exode, les bombardements, des maladies. Notre vie, dit Cheng, pendant des longues années, avait tenu qu'un fil. Cependant, notre désir de vie n'avait jamais été aussi intense. Les premiers poèmes qu'il a écrits en français, c'est le suivant. Nous avons bu tant des rosées, en échange de notre sang, que la terre 100 fois brûlée nous sait bon gré d'être vivants.